Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Bonjour tout le monde. Alors, je suis Bruno Matarazin, je suis hypno de formation, formé à la PNL, programmation neurolinguistique. Et puis depuis 2018, je suis spécialisé dans le domaine des émotions, car je me suis rapidement aperçu que ce qui nous pose problème, en fait, ce n'est pas ce qui arrive, ce sont les émotions que nous procurent ce qui arrive. Mmh. Bon, comme j'aime bien dire, si j'ai perdu mon travail, mais que je m'en fiche, que je n'ai pas d'émotions liées à ça, ce n'est pas vraiment un problème. Okay. Donc, je me suis spécialisé dans la libération des émotions, les peurs, les angoisses, la culpabilité qu'on voit beaucoup, les colères, etc. Tout ce qui m'empêche d'être qui je veux être, tout ce qui me cause aussi et qui m'empêche d'être bien, tout simplement, si ce n'est baigner dans le bonheur, simplement, voilà, être apaisé, tout simplement. Et c'est en libérant ces émotions-là qu'on trouve l'apaisement, l'acceptation de ce que je ne veux pas changer, etc. Et je forme depuis 2020 les hypnos et les sophros qui souhaitent justement voilà, plus efficace dans leur séance.
Tu reçois en ligne et en présentiel, c'est les deux, c'est ça, hein, il me semble.
Voilà, c'est ça, je travaille plus en ligne en fait même depuis 2020. Et voilà, avec la méthode que j'ai conçue, donc j'ai conçu une méthode qui s'appelle la clé communication et libération émotionnelle, et qui se fait vraiment très, très facilement en visio et que les personnes en plus peuvent utiliser seules chez elles si elles le souhaitent jusqu'à la fin de leur vie. Et je donne aussi de l'autonomie cognitive en expliquant l'intelligence émotionnelle. Mon but est que les gens deviennent autonomes. Mmh. Et pour ça, eh bien, il faut bien comprendre ces émotions, comprendre leur fonction, leur message pour ensuite l'utiliser et sentir plus épanoui. Donc avoir, ne plus les subir et être acteur de ces émotions. Ben.
D'accord, super. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Aujourd'hui, on vient parler donc ensemble de l'angoisse pendant les fêtes. Alors justement, Bruno, pourquoi les fêtes de fin d'année, elles nous angoissent?
Alors, elles peuvent angoisser, elles n'angoissent pas tout le monde. Mais en tout cas, si certains d'entre vous se sentent angoissés, un genre de mal-être, on ne sait pas trop, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, il y a déjà, lorsque je préparais ce live-là, je me dis fin d'année, fin, la fin de quelque chose. Ne serait-ce que ce mot-là, ça peut nous amener un petit inconfort. Quoi, simplement, je ne sais pas, il peut y avoir le regret, peut-être toute cette année qui s'est écoulée, il y a peut-être des choses que je n'ai pas réalisées, je ne me suis pas peut-être épanoui autant que ce que je le voulais. Et puis, il y a cette notion de fin de quelque chose qui peut amener à notre inconscient quelque chose de désagréable. Il y a cette notion de temps qui passe aussi. Lorsque c'est la fin de quelque chose, eh bien, il y a cette notion du temps qui passe et qui nous rapproche le plus de la fin. Pour certaines personnes, ça peut représenter ça. Je parle bien de l'inconscient, là. Les angoisses, dans 80% des cas, les gens ne comprennent pas pourquoi ils angoissent. Mais pourquoi j'angoisse à cette fin? Je ne sais pas. Et ça rajoute de l'angoisse. J'angoisse de ne pas comprendre pourquoi j'angoisse. Et on est vraiment dans un message de l'inconscient. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, ça représente aussi le début d'autre chose. Mmh. Une nouvelle année, Noël tombe en fin d'année également. Donc, il y a une nouvelle année qui approche. La peur de l'inconnu, la peur de justement ce que je vais connaître l'an prochain et que mon cerveau me dira ne va pas là, ne va pas là et m'amène une angoisse pour me prévenir. Ça expliquera après ce que c'est l'angoisse plus spécifiquement. Et puis après, il peut y avoir cette notion de retrouvailles familiales. Alors où ben, je me sens seul parce que ben, je n'ai pas la chance d'avoir une famille unie ou présente tout simplement. Il peut y avoir des décès aussi, des séparations, des ruptures. Et ben là, on se le prend en pleine tête en fait. Hein. C'est vraiment le symbole de retrouvailles familiales. Et si mon environnement familial ne correspond pas à ce à quoi j'aspire, et ben voilà, je vais ressentir de l'angoisse. Ça peut être un malaise émotionnel. Et puis, ce malaise émotionnel, il peut prendre des proportions et grandir jusqu'à cette notion d'angoisse si on n'a pas réglé les choses. Donc, je rencontre souvent en séance voilà, cette sensation de solitude, parfois parce que la personne est réellement seule, et parfois parce qu'on peut se sentir seul au milieu de la foule. Hein. Vous connaissez ça certainement, certains d'entre vous. Et puis, ben, je ne suis pas à ma place. Pourtant, il y a tata, il y a père-mère, il y a sœur, mais je ne me sens pas appartenir, moi, ou je ne sens pas que je suis accepté, je me sens décalé, ou c'est très personnel, ou alors c'est les autres qui me le font bien sentir, de par différents comportements ou différentes absences de comportement, justement. Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent venir se mélanger avec ce dont j'ai parlé avant. Et voilà ce que je rencontre quand même régulièrement.
D'accord. Tu as bien fait de nous rappeler d'ailleurs que la solitude, ce n'était pas forcément le fait d'être seul, mais vraiment ce sentiment de se sentir seul. Et c'est important de le rappeler parce qu'on peut parfois être effectivement très entouré et avoir une famille autour de nous à table et se sentir pourtant pas vraiment à sa place ou pas au bon endroit. Ou voilà. C'est vraiment un sentiment.
Ouais, il peut y avoir aussi, l'angoisse peut arriver aussi de non-dits qui traînent dans le temps. Et puis ces retrouvailles familiales viennent mettre en évidence. Alors là, on est dans l'inconscient. Hein. Voilà toutes ces choses que je gardais à l'intérieur de moi que je n'ai pas exprimées. Et lorsque je me retrouvais face à toutes ces personnes pour lesquelles j'ai gardé des sentiments pas très agréables, et ben voilà, boum, ça ressort. Et on est encore dans le domaine émotionnel parce que ce que vous aurez gardé à l'intérieur de vous, il y a des événements. Mais ces événements, s'ils ne sont pas associés à une émotion désagréable, ils nous fichent la paix. S'ils nous angoissent et s'ils viennent perturber notre bien-être, c'est qu'ils sont associés à une émotion désagréable, c'est clair et net. Émotions agréables au-delà de 5, 6 sur 10. 2, 3 sur 10, on est OK. Hein. De toute façon, ça ne descend jamais à zéro. 5, 6, désagréable. On n'est pas forcément bien, mais on arrive encore à faire. C'est compliqué. 7, 8, c'est fini. On n'est plus nous-mêmes. On subit, on ne comprend pas. Et c'est très souvent la spirale infernale. Plus j'angoisse, plus j'angoisse. Plus je me dévalorise, plus je me dévalorise, plus j'angoisse. Et je rencontre souvent voilà, ce système de spirale, en fait, des choses qui ne s'arrêtent pas parce que ben, c'est l'effet domino, c'est en train de cela. Comme il y a cela qui se passe, ben, forcément, c'est en train de cela. Comme c'est en train de cela, c'est en train de cela. Et on va tout le monde.
D'accord. On va revenir à la base, Bruno, du coup. Et cette question a d'ailleurs été posée aussi par des utilisateurs et utilisatrices. C'est quoi une angoisse?
Une angoisse, on va être dans un malaise psychologique qui va s'exprimer au niveau physique. C'est-à-dire, ça va être un avertissement de l'inconscient comme quoi il y a un danger. Il y a cette notion de danger imminent qui arrive et on n'a pas forcément conscience. Mais non, Bruno, je ne suis pas en danger, je suis en vie, je me balade, tout va bien. Pour ta partie consciente. Mais pour ton inconscient, lui, c'est toute une autre histoire. Je suis entouré de ma famille quand même, beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Oui, pour ton conscient, pour la norme. Mais ton inconscient, lui, il a intégré une relation à la famille ou à certains membres de la famille différente ou à cette notion de fin d'année ou début d'une autre différente. Il n'a pas forcément conscience. C'est pour ça qu'on le subit parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. C'est pour ça que je m'applique à expliquer tout cela en séance et dans différents programmes que je propose parce qu'on ne peut contrôler, avoir de la maîtrise, avoir un effet que sur ce que je comprends, que sur ce dont j'ai pris conscience et ce que j'ai identifié. Ce dont je n'ai pas pris conscience, eh bien, il joue sur moi, ce que je ne peux pas contrôler, quelque chose que je ne comprends pas, et je ne peux pas agir sur quelque chose que je n'ai pas identifié de manière plus précise.
D'accord.
Donc, ouais, vas-y, ça arrivait par la suite. Donc voilà, l'angoisse est un signal de l'inconscient qui croit que tu es en danger, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on a des angoisses, qu'est-ce qu'on fait? On va s'isoler, on s'en va, et puis on finit très souvent par rester chez soi. Parce que très souvent, j'angoisse d'angoisser. J'angoisse d'angoisser pendant les fêtes de Noël, et voilà. Donc là, ça va, mais mon cerveau anticipe l'événement problématique pour lui, et donc tu amènes une angoisse dans le présent, alors que c'est un danger futur.
D'accord. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce qui se passe exactement dans notre cerveau dans ce cas-là?
Alors, dans le cerveau, alors on parle de cerveau très unique. Alors là, c'est schématisé, ok, c'est plutôt symbolique, la neuroscience avance. Donc, on a trois aires cérébrales, trois fonctions du cerveau. On a ce cortex préfrontal qui va être conscient, qui va, lui, va vouloir comprendre les choses, il va avoir besoin de mettre du sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rencontre des gens qui me disent « Mais non, mais c'est parce que je suis faible, parce que je suis nul, parce que je suis ceci, cela, que j'ai crise d'angoisse. » Parce qu'il faut que je mette du sens dedans. Et il faut qu'il y ait bien une raison. Donc, c'est parce que ceci. Et c'est parce que d'ailleurs, ma mère, mon père me l'a toujours dit, que j'étais faible, que j'y arriverais pas. Et donc, on vient valider en plus des choses du passé qu'on nous a bien ancrées tranquillement pendant toute notre enfance. Donc, lui, voilà, je ne travaille pas trop avec ce cerveau-là parce que lui, il sait les choses en général. Il sait que ça ne craint rien. Il sait les choses. Je ne travaille pas avec ce cerveau-là, avec cette aire cérébrale, avec cette fonction-là. On a deux autres fonctions du cerveau. On a une fonction du cerveau qui est vraiment dans le domaine de la survie, dans les réflexes, symbolisés par le cerveau qu'on appelle reptilien ou archaïque ou primaire. Cette fonction-là, elle va pas vraiment peser le pour et le contre. Si elle estime que tu es en danger, elle s'en fiche. Grosso modo, tu vas pouvoir penser, tu vas pouvoir lui dire « Mais non, tout va bien, tout va bien. » D'ailleurs, vous avez déjà essayé hein, de raisonner, de faire baisser l'angoisse en pensant. Ça marche pas. C'est bien parce que lui, il agit de manière quasiment autonome, même si quand même rattaché le cerveau, il y a des milliards de connexions.
Ouais.
Donc voilà. Moi, je dis ce cerveau-là qui croit en danger et qui envoie un signal d'alarme. Mon Dieu, ne va pas à cet entretien pro, ne va pas à ce rendez-vous, ne va pas à ce repas de Noël, parce que moi, inconscient, j'estime qu'il y a un danger d'humiliation, un danger d'être jugé, un danger de ne pas être respecté, de ne pas être reconnu, etc., etc. Et ce cerveau-là, on va dire, il prend ses informations aussi, il peut se programmer tout seul, il prend aussi ses informations de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau émotionnel ou limbique, les limbes, la frontière entre la partie consciente et une partie inconsciente. Dans ce cerveau-là, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale, rien à voir avec les amygdales, c'est-à-dire amande en latin. Elle, en fait, elle va garder en mémoire tout ce qui a pu te faire souffrir, tout ce qui a pu te mettre en danger, l'injuste, ce qui a été douloureux pour toi, pour tes valeurs. Alors tout, pas forcément tout, mais en tout cas, ce qu'il estime être suffisamment important, dangereux pour toi, pour le conserver, pour te protéger dans le présent et le futur d'un danger vécu dans le passé. Même des mémoires traumatiques.
Ouais.
Donc, c'est comme un petit radar sur pattes et qui balaye comme ça toute la journée. Et dès qu'il voit quelque chose qui lui rappelle ce qu'il a engrammé, là, mon Dieu, danger, t'inquiète, je vais t'aider. Une petite crise d'angoisse, comme ça, tu restes chez toi et tu n'arrives pas à te mettre en danger avec une famille ou certains membres que ton inconscient a classé dans danger pour les raisons qui sont les tiennes, les siennes, ou pour les raisons que tu dis d'accord, c'est... ça marche, ça fait sens de suite. Donc, ma spécialité, c'est de vider cette poche de mémoire traumatique, comme ça, elle arrête de nourrir ce reptilien-là, et ensuite agir sur le comportement, sur le passage à l'action. Donc, on va libérer toutes les émotions liées au tonton, au grand-père, à ceci et à cela. Et ensuite, on ira libérer la peur de se rendre à ce repas. Ou alors, la culpabilité de ne pas s'y rendre. Parce que j'ai peur. Et donc, on m'angoisse. Parce que je n'ai pas envie d'y aller, en fait. Quoi. Mais les normes sociales, familiales, la peur de décevoir, d'être jugé, etc., etc., va me pousser à y aller. Mais mon inconscient me dit « Arrête, ça n'y va pas !» Donc, il va y avoir ce conflit interne entre une volonté consciente et une volonté inconsciente qui veut me protéger. Crise d'angoisse. Comme ça, tu restes chez toi. Et lui, il dit « C'est bien, je l'ai protégé. Il reste chez lui. »
Intéressant, intéressant justement de voir ce mécanisme. Maintenant qu'on a vu ce mécanisme, et la question a déjà été posée plusieurs fois également, on est tous... On a tous hâte de savoir que faire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, ou pas contre ça, mais en prévention, quels sont tes conseils ?
Ouais, ok. Alors oui, on va surtout agir en prévention. Alors, les angoisses à gérer seules, si c'était possible, ça se saurait tout de même. Hein, d'accord ? Donc, tout de même, si vous n'avez pas trop le choix, avec ce que je viens de vous amener, vous pouvez conscientiser les choses. Ok, j'angoisse, d'accord. Une émotion... C'est important ce que je vais vous dire. Une émotion a deux fonctions principales. La première, c'est attirer mon attention sur un besoin non satisfait. Donc, reconnaissance quand je vais là-bas. Un besoin d'appartenance, de me sentir appartenir à un groupe. Ça, c'est très client aussi, on est en survie dans un groupe et on est en danger quand on est seul. Donc, notre cerveau va vouloir faire en sorte qu'on appartienne, qu'on se sente accueilli, qu'on se sente en sécurité physique et affective. On est un peu dans le domaine de la pyramide de Maslow avec les besoins, tous les besoins primaires de l'être humain, besoin de grandir éventuellement aussi. On peut aussi être en angoisse parce que toute ma famille a bien évolué et moi, cette année, ça n'a pas été super et j'ai peur du regard qu'ils me portent sur moi. Ça peut être le contraire. J'ai immensément évolué alors que ma famille, les pauvres, de par leurs difficultés, n'ont pas pu évoluer comme ils le souhaitaient. Je culpabilise d'avoir réussi. Et donc, j'ai peur du jugement et par rapport à mes valeurs, je ne peux pas dépasser mon père, ma mère. Or, ma situation pro, etc., fait que, clac, socialement parlant, financièrement parlant, on s'en fiche, il y a ce symbole de « je suis au-dessus » et mon cerveau ne peut pas l'accepter parce que je culpabilise d'avoir peut-être réalisé des choses que mes parents, ma sœur, etc., etc., n'ont pas pu réaliser. Et donc, quand je me retrouvais en face de repas, je vais pas être bien et mon cerveau protège de ça. Mais ça, si je n'en ai pas conscience, je vais subir. Donc, première chose, attirer l'attention non satisfait. Donc, vous pouvez rechercher ce besoin qui n'est pas satisfait, mettre de la conscience sur qu'est-ce qui va réellement se passer au fond de moi, qu'est-ce qui fait, si je suis vraiment honnête avec moi, qui fait que j'ai peut-être pas envie d'y aller à ce repas, en fait.
Ouais.
Pas du repas là, parce que c'est symbolisé par là. Les fêtes, la joie, un peu qu'on voit, la musique, les belles choses, etc. Je ne me reconnais pas là-dedans, moi. Je ne vais pas assez bien pour m'identifier à ce bonheur un peu ambiant ou à ce bonheur que la société veut essayer d'amener. C'est chouette, enfin, je n'ai pas rien à dire contre ça, sur ça.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, il y a un conflit intérieur entre ce que je vois à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et mon inconscient me le dit, tout simplement, avec des angoisses, avec « évite, fuis ». Il n'a pas 10 000 manières de nous faire réagir, notre cerveau, par rapport à une grande peur, parce que là, on est dans cette notion de peur, parce qu'il y a un danger. Il a 3 manières. La première, c'est l'immobilisme. Je ne fais rien, je laisse passer. En fait, en mode de sidération aussi, comme on dit, lorsqu'on apprend vraiment une nouvelle qui nous choque, on bug. Donc, il n'arrive même pas à parler. L'air de Broca contre le langage, il est à côté du cerveau limbique.
Mm-hmm.
Donc, je reviens à ta question, Charlotte. Mm-hmm. J'ai pas oublié. Donc, après, il y a la fuite. Ok, stratégie d'évitement. Non, mais je viens pas parce que ceci, cela ou non, c'est un entretien pro, ça m'intéresse pas finalement. Bien sûr que si. Mais le conseil préfrontal va dire ça ne m'intéresse pas ou le patron, il est nul. Mais en fait, j'ai une peur d'échouer comme j'ai pu échouer dans le passé ou d'avoir un emploi qui va dépasser avec un salaire qui va dépasser mes parents, etc. Bref, l'inconscient a toujours une bonne raison, une raison, pour lui elle est bonne, de m'amener des angoisses, de me faire éviter de me procurer en tout cas cet état émotionnel désagréable. Et c'est désagréable pour que je puisse changer quelque chose, mettre en mouvement pour satisfaire ce besoin d'en satisfaire. Émotion, émouvare en latin, mouvare mouvement, et de extérieur, mettre en mouvement à l'extérieur de moi, c'est me mettre en mouvement. Une émotion désagréable avec ces deux fonctions-là, attire mon attention sur le besoin satisfait, donc recherche ce besoin qui ne sera pas satisfait, et puis le besoin de mouvement, fais quelque chose, ok, j'agis, je parle à la personne, je ne viens pas à ce repas, je ne sais pas, ou je pars plutôt également, mais en tout cas, quel changement tu peux amener par rapport à ce besoin. Ça peut être aussi consulter parce que c'est trop compliqué, parce que j'en sais rien, parce que c'est embrouillé, parce que c'est confus, parce que je n'y arrive pas tout simplement. Mon conscient va peut-être te mettre des barrières pour que tu puisses résoudre ce problème-là parce que pour lui, c'est un danger. Tu vois ? Donc, y a de quoi devenir fou et de quoi bien nourrir cette angoisse-là aussi. Donc, en prévention, je vous invite à déjà, à accepter. Ok, d'accord. Vraiment, c'est hyper important. Ok, je suis pas bien. J'ai une petite angoisse, une grosse. Il y a quelque chose. D'accord. Si vous considérez, oh, mais non, ça me saoule, j'en ai marre d'être comme ça et tout. Ça ne marchera pas. Vous avez essayé de vous rendre compte que ça ne marche pas. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Accepter quelque chose qui est désagréable en moi. De toute façon, il est là. Il tambourine la porte pour rentrer. Ouvrez la porte, il finira par défoncer la porte, hein. On va à la porte, ok. Et d'accord, j'accepte, je me pose, ok. Et puis, je mets un peu de mental dessus. D'accord, qu'est-ce qui se passe réellement au fond de moi? Si je suis honnête envers moi-même, et même s'il y a des choses que je n'ai pas trop voulu voir, que j'ai mis de côté là, alors les angoisses, ça, elles se nourrissent de ça. Hein. On remplit la boîte, on saute dessus pour pas que ça sorte. Mais c'est là, de toute façon. Donc, si c'est là, l'inconscient le sait et il s'en sert là, pour en protéger. Alors, c'est ouvrir la boîte, dire « Ok, qu'est-ce qu'elle attend ?» D'accord, il y a ce rapport au père là que je n'ai jamais dit que la manière dont il me parlait quand j'étais petite, nana, était dévalorisant, qui m'a fait souffrir, ma mère, un divorce qui n'est pas digéré, une sœur en frère qui m'a dénigré, qui a été préférée, qui a plus réussi que moi. J'en sais rien, ça s'appelle plein de choses. Déjà, ce qui est vraiment à déculpabiliser, parce que je rencontre souvent les gens qui ont des crises d'angoisse comme ça, culpabilisent, ils se croient nuls, ils se croient faibles, etc. Vous n'y êtes pour rien. Autrement, vous le feriez, ok? Et qu'avec cette explication neuro-là, de cerveau-là, ben, il y a bien une partie de vous que vous ne contrôlez pas. Et je prends cet exemple-là, rapide sur l'autre, là, pour vraiment prouver que ça marche. C'est les phobies des petites araignées comme ça, là. Peut-être un peu partout. Le mental dit, c'est débile, elle est petite, je l'écrase, je m'en vais, elle ne peut rien me faire. On le sait, le code frontal le sait, n'empêche que, comme je dis, tu es debout sur une table. Et elle ne descendra pas de la table tant que la petite araignée sera là. Tout en se disant que c'est débile et en voulant y descendre, ça ne marchera pas. Immobilisme, sidération, le corps ne bougera pas. Et il sera tout tendu comme ça. Et donc, je vais culpabiliser en plus. Mais tu as vu, comme je suis nu, je sais bien. Et puis, c'est parti. Voilà. Et ça, ben, faut le dégommer, quoi. Tout simplement. Okay. Donc, acceptez ça, comprenez que vous êtes pour rien, c'est OK, on pose. Analysez ce qui peut vous poser souci dans ce repas-là, dans cette atmosphère-là. OK. Là, quand vous faites ça, vous êtes dans le mental, vous montez dans le cortex, vous n'êtes plus dans le cerveau émotionnel. Vous sortez, vous êtes obligé, lorsque vous pensez une émotion, vous êtes obligé de vous en dissocier pour l'observer. OK, tu es là. Allez, on va discuter maintenant un petit peu. La clé, c'est ça en fait, hein. C'est discuter avec l'émotion. Tout simplement avec cette partie de moi qui croit que je suis en danger, qui croit qu'il ne faut pas que je passe, sinon je vais me faire humilier, qui croit que ceci, cela. Okay. On l'explique que c'était vrai avant. Peut-être qu'avant aussi, ça crée ce système-là, ben ouais, parler était dangereux parce que humiliation, etc. Mais qu'aujourd'hui, j'ai 42, 50, 22, etc. C'est plus d'actualité. Et la clé et son principe, c'est de remettre à jour le programme. Que le programme inconscient qui s'est fait en pensant bien faire, en fait, quoi.
D'accord. Merci.
Vrai, tu me dis dans les commentaires si c'est pas assez précis ou quoi.
Je pense qu'on verra ça sinon dans les questions, si vraiment il reste encore des choses qui sont.
De manière pratico-pratique, il y a aussi partir plus tôt. Hein. Ok, je viens, par contre, je devrais partir à 11h, hein, 23h au midi ou ceci, cela. Ok, je préviens. Et mon cerveau me dit, OK, c'est bon, ça va durer, mais il n'y a pas cette partie inconnue que le cerveau n'est pas programmé pour se protéger de l'inconnu. Donc, si je dis, OK, je viens, mais pour les raisons qui sont les mêmes, vous inventez un truc, je ne sais pas, voilà, je devrais rentrer un petit peu tôt, voilà, ça va le rassurer. Il y a du contrôle quand même dedans. OK, c'est du contrôle. Et puis après, voilà, il y a ne pas y aller, hein, mais là, c'est très compliqué pour les gens, je le vois. Est-ce que c'est le mieux? Pas forcément. Je ne vais pas vous dire, oui, n'y allez pas, je n'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, attention, je ne dis pas ça. Mais c'est juste aussi partie des éventualités. Et si j'y vais, OK, partir plus tôt, d'accord. J'accepte que je serai peut-être mal à l'aise. Je comprends que c'est ma relation à un tel qui pose problème. D'accord, OK, j'ai compris. Ça va mieux.
Ça va? Merci. Merci. Merci Bruno pour tes conseils. J'espère qu'on a pu donner assez d'outils aux personnes pour qu'elles se sentent un peu mieux. On a aussi également des questions qui sont arrivées. On a notamment Tony qui nous a dit « Bonjour, j'ai une petite question. Comment arrêter d'angoisser de ce que ma famille va penser de moi pendant le repas de Noël ?» Merci, merci d'avance.
Ouais, on est en plein dedans. C'est exactement l'exemple que je donnais. Hein. Comment arrêter d'angoisser par rapport à ce que ma famille risque de penser de moi? Il y a risque dans une éventualité. Si tu penses ça, Tony, ah, c'est quand même qu'il y a des éléments qui te font penser qu'ils risquent de penser des choses négatives de toi. OK, comment ne pas angoisser? J'arrive. Peut-être ça va être aussi de mettre les pieds dans le plat. Ok, bon, je vous écoute, quoi. Ben, allez-y. Ouais. Je pense que ouais, je n'ai peut-être pas été au top, je vous ai peut-être déçu de par mes comportements, de par mes sessions pro, de par mes sessions perso, de par le fait que j'ai pris une direction différente de la vôtre. On est dans le conflit de loyauté à ce moment-là aussi. Alors, pour angoisse, on est au top là-dessus aussi. Hein. Et ok, on y va. Ouais, ça fait peur parce qu'il y a l'inconnu. Comment ça va réagir en face? Est-ce que ça va créer de la tension, de la friction, du conflit? Il y a la peur du conflit. Je ne parle pas parce que j'ai peur du conflit. Ok, à quoi d'où vient cette peur du conflit? Et oui, d'accord, quand j'étais petit, on met du mental dessus. Et ou alors, ça va être ok, j'accepte. Ouais, je sais que bah, je ne suis pas forcément à l'image que mes parents voudraient. Je ne suis pas à l'image qu'ils espéraient avoir de moi. Ok. J'accepte. En ce moment, à l'instant T, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Si j'ai pu faire autrement, ben, tu l'aurais fait, Tony, de toute façon,
Bien sûr.
tout simplement. Donc, dis-toi bien que tu as fait du mieux que tu as pu, c'est clair et net. Ok, ça, c'est un fait. Et puis, ben, tes parents, on parle de carte du monde en PNL, en programmation neurolinguistique, ont une représentation de la réussite, du respect, de ceci, de cela, qui était différent de la tienne. Et ok, je vais faire une petite parenthèse, accepter que ben, c'est pas mes parents se regardent là sur moi le temps de Noël, peut-être jouer un rôle aussi pendant ce temps de Noël, et puis ensuite en discuter tranquillement, on ne va peut-être pas mettre le repas Noël, mettre le bazar pendant ce repas-là. Mais il y a cette notion d'acceptation, cette notion de compréhension, et puis ensuite, ben. On y va, on discute, et puis pourquoi pas les appeler avant, ou je sais pas trop comment tu communiques avec eux, mais voilà, écoutez, je me sens voilà, mal à l'aise en venant, je ressens une petite angoisse, et je pense qu'il faut les conditionner un petit peu avant ce repas, parce que ben, ouais, je vous aime, enfin, on est, voilà, je suis votre enfant, j'ai envie que ça continue à bien se passer entre nous, et je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas, en plus, Tony, mais dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce que j'ai fait, ou ce que je n'ai pas fait, et puis. On repart à zéro, j'en sais rien, mais on continue en tout cas différemment. Mais les non-dits, les choses comme ça pourrit l'eau. Ok? Tu me dis à ta question?
Merci Bruno, c'est top. Je pense que ça va bien servir à Tony. On attendra sa réponse pour voir si jamais il veut en savoir plus. On a Charlotte aussi qui nous dit, j'ai une question, j'ai l'impression d'avoir une gêne dans ma gorge. Est-ce possible que ce soit de l'angoisse?
Oui, c'est fort possible. L'angoisse, on retrouve souvent poitrine, gorge, sternum par là, moins le ventre, quoi. Alors après, ça dépend si c'est une gêne qui est là depuis longtemps et qui reste, qui est toujours là. En général, l'angoisse, elle est caractérisée par une montée de cette sensation de serrage. En général, ça serre, hein. Ou là, il y a une boule, on dit, boule où ça serre, ça noue, on a du mal à respirer. Donc, si ça monte comme ça, ouais, tu es en train de commencer, alors attention à l'angoisse, on va être dans une très forte intensité. Quand on a une crise d'angoisse, on le sait, il n'y a pas de doute, on a l'impression qu'on va mourir. Hein. Après, il y a un état un petit peu d'angoisse latent. On parle de TAG aussi, de troubles anxiogènes généralisés, mais voilà, qui reste à du 5-6 un peu tout le temps là. Charlotte, ça peut être quelque chose de ce style-là. Et ça, ouais, il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose que tu n'as pas réglé, c'est clair. Et voilà, qui est là, derrière, là, et qui. Comme tu ne règles pas ça, ben, ça va pas s'arrêter de serrer, hein, je te le dis. Ton cerveau, il a besoin que tu dises, OK, j'ai identifié ce besoin non satisfait, d'accord, c'est OK, et je mets en action maintenant pour changer ça. Donc, va voir un petit peu à partir de quand cette boule-là ou ce serrage-là, il s'est mis en place. Souvent, cette date aussi fait sens. Et puis, regarde dans ta vie aussi ce qui ne te correspond pas. Tout simplement. Ce n'est pas forcément lié à Noël en plus, attention. Hein. Là, c'est un peu le cas de moi. Mais voilà, ça peut être la rentrée septembre, là, qui est angoissante pour toi, pour ceci ou pour cela, et puis qui traîne dans le temps et on arrive à Noël comme ça. Ah ben Noël, c'est compliqué. Non, c'est pas Noël. C'est depuis septembre, depuis le boulot, depuis ton changement de poste où tu n'es pas respecté, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, etc. Et ça traîne jusque-là. Donc attention de ne pas non plus. Oui, donc c'est Noël qui pose problème, parce que c'est Noël. Non, non, attention, je ne dis pas que ce n'est pas ça non plus. Voilà, fais attention, d'où l'intérêt d'avoir un professionnel aussi pour qu'il puisse aussi identifier toutes ces choses-là. Voilà, la question c'était est-ce que c'est une angoisse? Tu me dis si j'ai répondu à ta question.
Oui, très très bien, Bruno. On a Salia aussi qui nous dit, même si on connaît ce qui ne va pas, comment arriver à garder l'espoir que ça va changer?
Ça ne va pas changer. Si tu ne fais rien, ça marche. Le changement se fait par le passage à l'action, le mouvement. Ok? Si tu attends que ça passe, il y en a qui attendent une vie entière comme ça. Ok? Et d'ailleurs, c'est ce que te dit ton émotion. Et mouvaré. Tant que tu ne mettras pas en mouvement, tu ne changeras pas quelque chose dans ta vie, ça ne passera pas. Hein. Ça va monter. Hein. Enfin, je n'ai pas de pessimisme, mais tous les gens que je vois, ils traînent des angoisses parfois depuis 20 ans. J'en ai hein, 10, 15, 20 ans. J'en ai eu 30 ans, là, un époux qu'on a depuis 30 ans, il avait ça. Voilà. Donc, attention, je ne vais pas dire que ça ne passera jamais. Attends, voilà. Mais d'après mon expérience, en tout cas, j'ai quelques milliers de séances. C'est dans cette définition même de l'émotion, quoi, émouvaré, tant que tu ne mettras pas en mouvement, tu ne changeras pas quelque chose, ça ne passera pas, ça sera même d'augmenter. Ou ça peut, il peut y avoir des dépassements de symptômes. Voilà, parce que tu as dû travailler sur le symptôme, mais bon, dans 6 mois, 1 an, 3 jours, boum, ça va revenir sur autre chose, une addiction, un truc, un rapport à la bouffe différente, etc. Donc, ouais, la gorge te signifie quelque chose. Elle attire ton attention sur quelque chose qui ne va pas dans le passé. Ça peut être le futur aussi, ça peut être la peur du futur aussi, la peur de l'inconnu du futur. Donc, va voir un peu là-dedans et puis mets-toi en mouvement. En général, il y a la peur de se mettre en mouvement. En général, on sait ce qu'on doit changer. On sait à qui on doit dire, à qui on doit couper les contacts, en tout cas mettre de la distance, etc. Mais il y a une autre peur, la peur du conflit, la peur d'être seul, la peur d'être jugé, etc. Enfin, il y a une liste longue comme ça de peur. Donc, va voir qu'est-ce qui t'empêche, que je pense, excuse-moi de ton prénom, que tu sais peut-être quoi changer, qu'est-ce qui ne va pas et que, ouais, mais bon, j'ai peur de faire. Ok. Tu regardes un petit peu cette peur, tu vois si tu as la dépasser, comment faire. Et après, sinon, ben, tu consultes. Hein, enfin, voilà. Hein, parce qu'il y a des choses. Parfois, c'est comme un pyromane, le policier, qui est le policier lui-même, le pyromane. Compliqué, quoi. Ton cerveau ne va pas forcément vouloir que tu amènes du changement parce qu'il veut te protéger de ça. Si le changement que tu vas amener, il risque de créer un conflit et que ton cerveau veut te protéger du conflit, il t'amènera une peur suffisante pour pas que tu crées ce changement. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour rien que je suis basé sur les émotions. On libère l'émotion du conflit, l'émotion de peur de le rapport, etc. Donc, du coup, je peux passer à l'action et faire agir là où je dois agir pour régler le problème, enfin pour le régler, pour le arrêter de le nier, arrêter de le mettre dans une case comme ça, parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bah, mais ça va sortir un jour, hein. Ça part pas tout seul. Tout ce que l'inconscient il garde à l'intérieur de lui, il s'en sert ou il va s'en servir. Hein. Je vous parle vraiment de ce que je vois en séance depuis 2015. Hein. C'est ça qui se passe. Voilà comment.
Intéressant. Merci, merci Bruno. Il y a d'ailleurs Tony de tout à l'heure à qui tu avais répondu. Il te remercie beaucoup d'avoir répondu à sa question et que pour lui, ça va beaucoup l'aider déjà.
Super. Merci Tony, merci de ton retour.
On va faire une dernière question, Bruno. Il y a Flick qui nous dit, bonjour, j'ai une question. Que dois-je faire face à un membre de ma famille qui m'aime et que j'aime, mais face à qui je me sens toujours jugée? Cela m'énerve et m'angoisse. C'est assez marrant qu'on voit, on a beaucoup de jugements ici.
Mais beaucoup d'angoisse vient de là, cette peur d'être jugé, ou la personne est réellement jugée, attention, hein, il y a la peur de l'autre, qu'on ne l'est pas très souvent, c'est ça, mais parfois on l'est. Hein.
Bien sûr.
La personne ne peut pas s'empêcher d'eux. Ok, tu l'aimes, il t'aime, et pourtant tu te sens jugé. Ok, on y va, on crève l'abcès. Bon, alors moi je suis boxeur aussi, j'étais boxeur pro pendant 7 ans, donc j'ai ce côté on y va, ok, la clé comme ça, on va droit au but, on y va, on la libère, boum. Donc ce côté aussi, voilà. Et parce que ça va bien ça aussi, et donc ben, j'irai voir cette personne, je dis ben, écoute, un tel, je sais pas, je sais qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, qu'on a l'affection, du respect l'un pour l'autre, et pourtant, ben, je sais pas, je me sens mal à l'aise et je te partage ça parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pouvoir l'accueillir et que tu vas accepter ce truc que j'ai. Je ne sais pas pourquoi. C'est con peut-être. Ouais, bah, dis-le avec tes mots. Hein. Mais dis-moi un petit peu, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Est-ce que je suis quelque chose qui te dérange un peu. J'ai l'impression que je ne suis pas à l'image que tu voudrais que je sois. Enfin, va voir cette personne-là. Et si tu n'oses pas aller la voir, réfléchis sur qu'est-ce qui t'empêche d'aller la voir. Parfois, la peur aussi d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Okay? Mais de toute façon, si tu as cette angoisse-là, ce sera jamais pire. Ce sera jamais pire d'aller la voir. Et vous aurez un rapport vrai comme ça. Et très souvent, quand j'étais éduc en foyer, ouais, j'étais éducateur en foyer, la protection de l'enfance avec des ados durs, ils avaient besoin de rentrer en conflit avec moi pour voir si c'était solide en face. OK? Front contre front, parfois, OK. Et une fois qu'ils voyaient qu'en face, c'était solide, ça ne bougerait pas, et moi, je suis là, je serai là, même qui m'enquiquine, je te poserai un cadre, et quand c'est non, etc., et bien, du coup, on s'entendait beaucoup mieux. C'est fou, hein? La relation, au début, ils disaient, mais elles sont si disputées, c'était chaud, ça va être galère. Et en fait, non, c'est le contraire.
Ça ne passe pas.
Moi, je vous invite à faire ça parce que, je me souviens plus de ton prénom, pardon. Tu vas le regretter. Delphine?
Flic, c'est un pseudo, c'est un
Ça
peu.
marche, ok. Flic, tu vas le regretter plus tard. Je vous invite à agir de telle sorte à n'avoir rien à regretter plus tard. Il vaut mieux faire, se dire, zut, j'aurais pas dû faire. Ça passe, c'est bon, c'est le stockage jaune, ça perd un peu de sous, ok, mais il y a une fin à ça, ok? Les choses que tu ne fais pas, mais tu vas pouvoir le regretter parfois jusqu'à la fin de ta vie, en fait, quoi. Mais il vaut mieux se dire, zut, je n'aurais pas dû le faire, que se dire, si seulement je l'avais fait, si j'avais essayé, si j'avais osé. Hein, je pense que beaucoup le savent, et ça, j'ai pu le connaître aussi, ça arrange, ça entame l'estime de soi. Et ça entraîne un effet de chaîne de cause à effet derrière. Le premier truc, ok, je peux me supporter, excuse-moi, on peut s'excuser, ça va passer, ok, mais le truc, il passe pas. Donc, vas-y, on met le pied dans le plat, on y va, on discute, et ce sera toujours mieux pour toi, pour vous, pour tout le monde.
Merci, merci, merci beaucoup Bruno pour ces conseils enrichissants, ce live enrichissant sur l'angoisse pendant les fêtes. Je ne sais pas si tu avais un dernier message à faire passer, soit sur ton cabinet, soit sur ces fameuses angoisses qu'on peut ressentir à ce moment-là.
Sur mon cabinet et sur les angoisses?
Oui, est-ce que si tu avais un message de
D'accord.
fin finalement
Ok,
avant ces
ok.
fêtes?
D'accord. Alors, en fait, ce message-là, ça va être profiter, si vous pouvez faire une parenthèse Noël et reprendre après les discussions et tout ça, ça peut se faire après aussi, ou ça peut se faire avant. Voilà, mais je vous invite vraiment à passer à l'action, peut-être profiter de ces fêtes-là, en fait, pour créer un changement. C'est la fin de l'année. Ça peut être la fin de quelque chose aussi. Ça peut être la fin de non-dit. Ça peut être la fin de conflit. Ça peut être la. De quoi voudriez-vous que ce soit la fin? Et passer à l'action pour que ce soit la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc autant ça peut être angoissant que ce soit la fin de quelque chose, autant ça peut être une opportunité pour vous de créer la fin d'une relation, la fin de non-dit, la fin d'une hypocrisie, la fin de je sais pas quoi, la fin de faire semblant. Et puis on y va, quoi. D'accord? C'est vraiment, vraiment, je le vois depuis des années au cabinet, en séance. Je ne vois pas de personnes qui me consultent parce qu'ils ont agi comme ça et qu'ils sont plantés. Je vois que des gens qui me consultent parce qu'ils n'ont pas agi. Attention, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est OK, hein, vraiment. Hein, voilà, notre cerveau, comme vous avez compris, va nous protéger, va pas vouloir qu'on le fasse. Hein, OK? Mais c'est là, à ce moment-là, consulter, vous savez le faire seul, OK. Mais voilà pour les fêtes. Et ensuite, bien écoutez, moi, vous connaissez ma spécialité maintenant, c'est vraiment aussi les angoisses, aller libérer dans le passé là toutes ces trucs qui pègent. Je vois un peu comme ça, alors c'est pas pègent, je crois que c'est quelque chose du sud qui colle à la peau. Et on est dans la mémoire traumatique. Et ensuite, voilà, on libère, et voilà, ce que me disent les gens, c'est ça. Ok, je respire, c'est plus clair, il n'y a plus de brouillard. Et mince, on n'a qu'une vie, quoi. Ok, enfin, en tout cas, certains pensent qu'il y en a plusieurs, ok, mais en tout cas, là, présentement, et va être dommage de pas agir, on le regrettera plus tard, et c'est pas juste. Donc, ben oui, vous pouvez me consulter en visio. Voilà, j'ai tout un programme pour vous accompagner là-dedans, pour le gain de confiance en soi aussi. pas mal de choses différentes à vous proposer selon votre profil, selon votre vécu, selon vos objectifs, vos désirs également. On peut fonctionner voilà, d'une manière différente. Et voilà ce que je peux vous dire. Et aussi
Merci.
Mon livre, vous pouvez commander aussi le guide pratique des émotions. La dernière fois, j'ai oublié de le dire, Charlotte. Le guide pratique des émotions, j'écris ce livre pour justement apprendre aux gens ce qu'on nous apprend pas à l'école.
Génial.
Tout simplement.
Génial.
Voilà. Dans la vie, les émotions, les angoisses, la relation, la communication, c'est très pratico-pratique. Et voilà, je sais que mes patients, je les vois, ils ont le livre dans le sac, ils l'amènent avec eux tout le temps. Donc j'ai fait ça. Et puis je vous laisse venir à moi si vous voulez aller plus loin, si vous voulez juste avoir des informations, tout simplement.
Merci, merci, merci beaucoup Bruno d'avoir pris ce temps pour nous aujourd'hui de venir nous parler des angoisses pendant les fêtes. Je te souhaite une belle journée à toi et merci encore d'avoir été présent aujourd'hui pour nous.
Merci à toi Charlotte, ton invitation. Merci à vous pour votre présence et vos questions. Je vous souhaite de bonnes fêtes.
Avec grand plaisir. Belle fête de fin d'année aussi Bruno. Je te laisse quitter avec la petite croix au-dessus de toi comme d'habitude. Et merci encore. Merci Bruno.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.